16h37 à Boulevard Ségravel dans le retour. Le soleil se pointe, il va s'installer pour deux jours, mais faites-vous-en pas, on est à Québec. Ça va être de la pluie pendant toute la fin de semaine allongée. Pour l'instant, c'est ce que les prévisions nous disent. Ce soir et cette nuit, on descend à 11 degrés, un 40 % de probabilité d'averse. Demain, brumeux par endroits en matinée, passage nuageux en après-midi, percée de soleil, maximum de 21 degrés. Jeudi, ciel variable, 20 degrés. Et après ça, de la pluie, vendredi, samedi, dimanche, et oui, lundi également, avec des maximums entre 21 et 23 degrés. Faites-vous-en pas, le soleil revient quand on va revenir de notre longue fin de semaine, mardi. 23 degrés. Des détails sur la rencontre entre le maire de Québec et le premier ministre du Canada, Véro.
En fait, j'ai dit des faussetés, je suis mêlée dans mes jours de semaine. L'entretien entre le maire de Québec et le PM va se faire aujourd'hui. Il y aura d'ailleurs une prise d'image aux environs de 5h15.
C'est pas fait encore.
Non, c'est pas fait encore. Okay. Je vous mentionne du même coup qu'il y a une activité de financement du Parti libéral qui se fait à Québec au Cercle de la Garnison, puis les débardeurs vont aller manifester dans le secteur entre 17h et 18h30.
Les débardeurs, c'est-tu eux autres qui se sont fait expliquer par leur chef de syndicat comment travailler lentement?
Non.
C'est pas eux autres,
les débardeurs, c'est ceux du Port de Québec, sont en locale depuis le 15 septembre 2022. Ce à quoi tu fais référence, c'est la vidéo qu'on vous a fait entendre hier avec le président du syndicat d'École bleue de la Ville de Québec.
Voilà. 16h39. Comment ça se passe dans la circulation, Audrey?
Pas super bien. Sur la capitale, direction ouest à la hauteur de Robert Bourassa, c'est encore super difficile. Direction ouest, c'est à la hauteur de Laurentienne que ça se passe. Si vous êtes sur Henri IV Nord à partir de la capitale jusqu'à Sainte-Geneviève, il y a un bon ralentissement. C'est aussi au ralenti à la hauteur de l'avenue industrielle dans le coin de Val-Bélair. Henri IV Sud, la congestion commence à la hauteur de Charest jusqu'à l'entrée du pont Pierre-Laporte. Si vous êtes sur Duplessis Sud, ça ralentit à partir de chemin Sainte-Foy jusqu'au pont. Il y a aussi des problèmes sur la 20 direction ouest entre chemin des Îles et Taniata. Direction est, ça ralentit vraiment seulement à la hauteur de Taniata, évidemment. S'il y a quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021 par texto.
On avait très, très hâte de la revoir en studio, premièrement parce qu'on l'aime et deuxièmement parce que on a tous regardé la série qui crée énormément de remous sur Netflix depuis une semaine et demie, deux semaines, la série Baby Reindeer.
La petite sirène.
Qu'on pourrait traiter, mon Dieu, une quantité infinie de sujets à partir de cette série-là où on voit ce qu'on va appeler une stalkeuse, une femme harcelante qui transforme radicalement la vie d'un individu qui, au départ, était déjà brisé par quelques traumatismes.
Oui, puis ça, on s'en rend compte au fur et à mesure que la série nous le raconte. C'est 7 épisodes, ça se regarde bien. C'est très sombre. On nous dit que c'est de la comédie noire. C'est pas vrai, c'est noir. C'est juste très, très dark.
Mais ça amène des conversations qui peuvent être quand même de bons débats et de bons échanges sur l'empathie, les limites de la générosité, de la bienveillance.
Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'origine, c'est basé sur une histoire vraie. En fait, c'est l'histoire de Richard Gadd, qui est un humoriste britannique, qui joue son propre rôle, entre guillemets. Son personnage s'appelle Donnie.
Ouais, on parlera du complexe de Dieu une autre semaine. Là.
c'est son histoire qu'il raconte. C'est lui qui rejoue en fait des scènes qu'il semble avoir déjà vécues. Fait que ça fait couler beaucoup d'encre. La fille, la stalkeuse, la vraie de vraie, elle est sortie à donner des entrevues à Piers Morgan. Ça n'a pas de bon sens. Il va y avoir une saison 2 pour nous raconter la suite, je pense.
C'est le plus grand cirque créé par Netflix depuis Tiger King, puis on ne veut pas retourner là. Caroline Gagnon est psychiatre. Salut, Caro.
Bonjour.
Ben, ça va?
Je suis un peu perturbée par la série.
Pour vrai, oui?
Je viens de la terminer aujourd'hui.
OK.
Avant de préparer la chronique.
Ben là, je suis
perturbée.
Perturbée à quel niveau? Parce qu'il y a plein d'affaires là-dedans.
Il y a tellement d'affaires. On parle de l'empathie aujourd'hui. Je vais essayer de vraiment avoir des messages clés en lien avec l'empathie. Mais cette série est pleine au niveau psychologique. Il y a une trame incroyable.
Il y a
plein
de cas,
dimensions à cette série-là.
Donc, on va se concentrer sur l'empathie en tant que telle. Peut-être en commençant à la définir, l'empathie. Puis c'est quoi la différence entre l'empathie puis la sympathie, mettons? Là?
Bon, quand on s'entraîne à devenir psychiatre ou psychologue ou intervenant, là, on nous parle d'empathie. Tu observes, tu vois les émotions de l'autre et tu préserves une autre distance.
OK.
Donc, si tu as de la peine, je reste dans mon rôle de psy. Là, toi, si tu as de la peine, moi, je vais avoir de la peine. Mm-hmm. Parce que là, on est des amis.
OK.
Je pourrais pas vous traiter comme patient. Dès qu'il y a un lien affectif, la sympathie arrive.
OK.
Si Véro raconte quelque chose qui a de la peine ou Audrey ou ça, c'est sûr que j'ai de l'émotion.
Ça va venir te chercher.
Même si j'essaye, je vais être empathique à vous, mais il va y avoir quelque chose. On n'a pas la distance.
L'empathie, moi, ce qu'on m'avait toujours dit, c'est justement se mettre dans la peau de l'autre pour essayer de comprendre ce qu'il vit, ses émotions et ainsi de suite, mais en gardant une certaine forme de détachement.
Exact. Et la question, est-ce qu'on garde toujours l'empathie en clinique? Non. On est des êtres humains. Il y a des minutes dans un entretien, parfois. Je vous ai parlé que j'avais un garçon autiste.
Oui.
Si j'ai une maman d'enfant autiste dans mon bureau, regardez, je ne ferai pas semblant.
Tu vas avoir de la sympathie.
Il y a un moment donné que je deviens sympathique, il faut que je me parle.
Uh-huh.
Là, je fais comme, oh non, là, va pas là, c'est ton histoire, c'est pas la sienne. T'sais, démêle les choses. Fait qu'il faut qu'on se parle comme psy là, pour rester dans cet espace de distance.
OK. Si je comprends bien la distinction entre les deux termes, tant que tu es dans l'empathie, il n'y a pas de problème.
Exact.
Et dans la série, c'est plus de la sympathie que de l'empathie que l'humoriste a pour cette dame-là qui rentre dans sa vie.
Ce qui est troublant, c'est qu'elle le harcèle.
Oui.
Elle l'agresse psychologiquement avec plein de comportements. C'est agressant, on le vit hein, quand on l'écoute.
Ouf.
Puis on ne donnera pas toutes les surprises de la série, là, mais ce qu'on voit, c'est que lui préserve une espèce d'empathie, mais qui devient malsaine.
Mm-hmm.
Il y a quelque chose qui est malsain dans cette... Il n'y a plus d'espace entre les deux.
La réaction que j'ai eue, puis c'est weird parce qu'on n'est vraiment pas tous à la même place par rapport au comportement des personnages. Puis chez nous, on l'a regardé en couple. Puis le ton n'a pas levé, mais presque, parce que moi, le comportement du gars m'agresse. Sa naïveté dans tout
pour
ça...
Pour toi, il court après le trouble.
M'agresse, puis bon, t'apprends à un moment donné qu'il y a ses traumatismes, puis il y a ses raisons, puis ainsi de suite. C'est très bien expliqué et c'est très bien joué par le gars qui a réellement vécu tous ces événements-là. Mais ça reste pour moi, malgré tout ça... Mon Dieu Seigneur, comment ça se fait qu'il ne voit pas les drapeaux rouges? Puis pourquoi il retourne y parler? Puis pourquoi
les gens se mettent dans le trouble pour les problèmes des autres?
Ouais.
Bien, on est presque dans un cycle de violence conjugale.
Mm-hmm.
Dans ça, c'est que la personne qui revient toujours vers son agresseur, pourquoi avoir de l'empathie? Commençons par nous-mêmes. Il faut avoir de l'empathie envers soi.
Mais je pense que c'est... Non, mais ça, ce que tu viens de dire, Caro, c'est le clou pour moi de cette série-là. Clairement, lui, il n'y a pas de respect et d'amour propre et de confiance pour lui-même.
Exactement. Là. On comprend que cet homme-là est blessé. L'estime de soi n'est pas là du tout. Son travail, ça ne va pas.
Bon. Bien, on regarde ses numéros d'humour, puis c'est dur d'avoir de l'estime pour soi-même. Là,
c'est mais ça. Bon, on s'ennuie de Rock et Belles Oreilles.
Oui, effectivement.
Quand on écoute ses numéros.
Bon, c'est une mauvaise blague.
Bon, excusez-nous. On fallait parler de Rock et Belles Oreilles aujourd'hui. mais tout ça pour dire que quand on voit le personnage, c'est bien fait. Au départ, ça paraît pas.
Mm-hmm.
Il semble adéquat, mais on réalise qu'il y a une faiblesse au niveau personnel et que cette femme-là entre dans cette faille. Elle lui fait sentir qu'il est beau, qu'il est séduisant. Même s'il n'aime pas ça, se faire harceler, il y a quelque chose qu'il aime là-dedans.
Elle nourrit quoi qu'il manque.
Il y a quelque chose, oui.
Puis on ne sait pas tout de suite. Elle apporte une validation, on dirait.
Oui, elle lui apporte quelque chose à un moment de sa vie où ça a été difficile, mais on ne le sait pas au départ. Donc là, on est fâché contre le personnage de l'homme qui ne met pas sa limite. Surtout que si elle lui touche physiquement, on se dit, voyons, on voit la scène, on dit, voyons, mais enlève-la de là, tu sais.
Mm-hmm.
Il n'ose pas bouger, il est sidéré en passant, il ne bouge plus, il fait le mort. Ça, c'est une réaction normale à l'agresseur.
C'est le principe de la femme battue ou de l'homme battu,
littéralement.
Exactement,
qui ne bouge plus. Il attend que le traumatisme finisse. C'est plus simple pour le cerveau d'arrêter de bouger, de laisser aller l'agression que de se défendre. Donc ça, c'est une réaction qu'on va voir, qu'on comprend en psy, mais qui est difficile à comprendre quand on écoute une série.
Quand on parle de stalking ou qu'on parle de violence et de manipulation physique ou psychologique, est-ce que je donne trop de crédit à ces gens-là de dire c'est des gens qui vont percevoir les failles chez les êtres humains puis qui vont voir la personne apte à se faire manipuler, ils vont la trouver, ils vont être capables de la groomer si on sort de la série là, de façon générale.
Dans le fond, l'agresseur, comment je vois ça, c'est qu'il peut essayer sa cible sur plusieurs personnes. Puis là, oups, dans le groupe de 10, mettons que je suis agresseur, je pourrais essayer de stalker du monde puis d'envoyer des messages à plein de monde.
Mm-hmm.
Peut-être sur 10, il y en a un qui mordrait à l'hameçon. Puis là, je vais rester sur celui.
OK.
Que ça... Oh, lui, il est dérangé par le fait que je le harcèle. Et là je dis « je me sens mal à l'aise, je ne ferai jamais ça. » Mais
la c'est personne, de l'empathie qu'on
la
appelle.
Personne, oui, c'est ça, je suis empathique. Mais l'agresseur va faire des essais. En effet, il va identifier la faible personne dans un groupe.
La personne qui va lui répondre le plus.
Oui, ça va être là que cette personne-là va être ciblée. Puis c'est pour ça que vous avez des amis qui ont vécu beaucoup de types d'abus. Vous dites, voyons, elle se fait toujours abuser, cette personne-là. Il y a quelque chose qui
fait que la personne... Le fameux
pattern. Oui, puis on a dit, voyons, à chaque relation, tout ça, qu'est-ce qui se passe?
Comment on fait pour s'identifier comme une personne qui a trop de sympathie puis qui est vulnérable à ce genre de relation-là? Parce que souvent, on a l'impression que tout le monde autour allume, avant le principal ou la principale intéressée.
C'est pas grave, les drapeaux rouges.
Ouais.
Je vais les changer.
C'est correct. On va essayer une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. C'est ça qu'on voit, hein, dans les situations. Je parle de couple, mais ça peut être amitié, toxique, toutes les relations, puis agresseurs, agressés, là, dans le fond.
À différents degrés.
C'est
là.
Ça. Donc, la personne, ne veut, c'est du déni. Tu sais, je veux pas voir que j'ai été agressée par... Bon, comme la femme arrête pas de l'harceler. Au début, il veut pas voir ça. Les amis l'agacent. Mais non, c'est pas grave. Donc, on minimise les effets sur nous. Mm-hmm. Fait que ça veut dire que si je ne mets pas de limite pour me protéger, je ne vois pas que l'autre y empiète sur mon territoire, parce que j'en ai pas de territoire. Si je ne mets pas mes limites, si je deviens ouverte à... Bien là, tu peux même agresser, on va rester ensemble pendant des mois et des mois. Donc, c'est un peu ça, notre personnage. Là, qui
on dirait que tu développes une pitié dans l'empathie, la sympathie, peu importe. C'est comme si tu trouves des excuses au comportement de l'autre parce que tu dis, bon, ben cette personne-là, visiblement, elle va pas bien, fait que c'est correct, je vais rester là, je vais l'aider.
Souvent pour des gens que tu connais très peu ou à peu près pas.
Mm-hmm. Tout à fait. Donc, la pitié, c'est pas un sentiment qui est noble nécessairement. T'sais, la pitié pour quelqu'un, c'est rare que quelqu'un dise, j'aime ça faire pitié, là, puis que prenez-moi pitié. Il y en a que oui. Ça, c'est des problématiques de personnalité, on va dire. Mais habituellement, ce qu'on veut, c'est on peut identifier quelqu'un est malade. Puis la dame, on voit qu'elle est en psychose. C'est un délire érotomaniaque. En passant, on appelle ça comme ça.
Wow!
Le diagnostic, là.
OK.
Kevin Parent, il y avait eu une...
La fille tout nue sur son lit, là, qui pensait qu'elle était en relation avec
mais
lui.
Mais elle prétendait qu'elle était sa blonde.
Ouais.
Puis elle vivait comme si elle était la blonde de Kevin Parent. Donc, c'est la même chose pour Martha. Là,
elle, à un moment donné, est convaincue
si on cherche le diagnostic,
en couple
c'est un
avec
délire, c'est psychotique. Et elle avait déjà fait ça avant, on le voit dans l'émission. Elle avait des antécédents de ça. Donc là, elle a ciblé le gars au bar, qui est l'humoriste en question.
Est-ce que ça rentre dans les troubles de personnalité limite? Puis est-ce qu'il y a moyen, parce qu'elle, elle a de l'air d'une incorrigible, puis les gens qui ont vu la vraie Martha donner une entrevue récemment, on voit la même maladie, on voit le même reflet de folie. Elle semble exactement où elle était dans la série de fiction. Y a-t-il quelque chose à faire avec des gens?
Il y a des éléments de personnalité qui favorisent ça, comme tu dis, le trouble de personnalité limite, mais c'est surtout un trouble psychotique. On parle de psychose, on parle d'un débalancement au niveau des perceptions. Elle est convaincue
elle
qu'elle
choses,
a sorti avec ce gars-là. Ouais. Un moment donné, elle lui dit, voyons, tu sors avec notre fille en même temps que moi, quelque chose du genre. Elle, pour elle, c'est une conviction.
Ils sont en relation, là.
Oui, pour elle, c'est vraiment ça. Donc, elle s'attend à ce qu'il l'accueille tout le temps au bar comme sa blonde. C'est fou, là, incroyable, mais c'est ça qu'elle vit. Cette personne-là.
Pour parler un peu du personnage principal puis du principe des limites de la sympathie, de l'empathie, est-ce que ça vient d'un manque chez une personne?
Oui. Ça se règle-tu?
Un surplus de sympathie, dans le sens que est-ce que tu es né de même avec un surplus ou c'est vraiment il y a un manque à quelque part qui fait que tu développes cette sympathie?
J'ai comme l'impression que c'est en lien avec un manque d'affirmation de toi-même, de qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, ta valeur, tu ne t'affirmes pas comme qui t'es.
Tu vas aller la chercher chez les
c'est
autres.
Ça. Donc, si on ne t'a pas élevé avec ça, si on n'a pas, on t'a pas donné le sens de « affirme-toi, Audrey, fais ta vie, fais tes affaires, je t'encourage. » Si on ne t'a pas dit ça dans la vie, parents, amis, famille, c'est la base, là, c'est sûr que tu vas arriver et quelqu'un va t'harceler puis tu vas laisser faire. T'sais, il va arriver quelque chose comme ça. Là.
Mais au-delà du harcèlement, là, je ne veux pas le pousser à l'extrême.
Juste avoir le cœur sur la main
envers
des inconnus ou des étrangers.
Ça
vient-tu
d'un manque?
C'est un trait de personnalité, hein, d'être trop. Tu sais, d'être dans la trop gentillesse, c'est être aimé, c'est plaire. On est souvent là-dedans, là. Tu sais, d'être trop gentil. Mais ça va avec manque de limites, manque d'affirmation. On est dans la même famille. OK? Il y a divers degrés, je te dirais.
Parce que ma blonde est comme ça. Elle est gentille avec tout
c'est
le monde.
C'est pour ça qu'elle sort avec
de façon étabarnouche.
C'est exactement ce que je lui ai dit.
Mais moi, ce que je dis,
excuse-moi,
juste avec ça, ta BA est faite. T'as pas besoin d'aider les autres.
C'est
Moi, mon point, c'est que un moment... Puis on a discuté là-dessus pendant la série. Puis un moment donné, j'ai dit, t'es tellement gentille et généreuse que... Des fois, tu te mets en danger, puis tu t'en rends même pas compte.
Mais c'est là l'affaire. Parce qu'être trop gentil, être très gentil, c'est OK. Être trop gentil, puis se mettre en danger, ne plus avoir d'intégrité pour soi-même, c'est là le problème. Gentil, c'est correct. Donner des sous aux gens qui demandent la quête, tout ça, c'est bon. Faire du bénévolat, c'est super. Mais pas au détriment de notre santé, puis notre personne.
Puis moi, je vois ça aussi.
Ou d'ouvrir une porte à une certaine intimité, là.
Ouais.
T'sais, on a tous des bulles, puis à un moment donné, si la personne à qui on ouvre un peu trop cette bulle-là voit plus la distance, puis n'est pas capable de la respecter, faut être capable, nous, de se distancer.
Tu sais, il y a une scène où il bloque pas sur Facebook, là, il est devant.
Il peut, il a le choix.
Tu écoutes la scène, tu sais, bloque. ça va être facile. Fini.
Oui.
Oui, oui. Tu arrêtes de lire.
Ben, je l'ai crié à TV. Moi bloque-là. Appelle la police.
Fais pas ça. Il m'a pas écouté non plus.
Hey, en passant, on est en train de parler de la série Baby Reindeer, qui est un gros buzz sur Netflix depuis quelques semaines. Puis la discussion qu'on a avec Caroline Gagnon, psychiatre, c'est sur les limites de l'empathie puis de la sympathie et des dangers d'une trop grande générosité ou d'une trop grande ouverture, tu sais. Puis effectivement, pour un gars comme moi, moi, j'appelle ça un instinct de survie. Puis c'est ce que j'expliquais à ma blonde. Moi, je peux pas être généreux avec tout le monde. J'ai deux enfants protégés chez nous.
Voilà.
J'ai pas ça. Puis oui, à base, je suis quelqu'un de relativement égoïste.
Moi, t'avais pas d'enfants. Puis
maintenant, j'ai un alibi merveilleux. Oui, oui, oui. Mais, tu sais, moi, est-ce que j'ai les bons termes de dire que c'est un genre d'instinct de survie?
Mais moi, j'ai une défiance naturelle.
De voir à un moment donné, pas le danger partout puis de devenir paranoïaque, mais d'être prudent par rapport.
Exactement. Prudence, vigilance, conscience. Soyons conscients de ce qui se passe dans nos relations, partout dans notre vie. Parce que là, on peut dire, dans toutes nos relations, on est toutes équilibrées, puis il y en a une, entre autres, que, oh, on a de la misère. Mm-hmm. Tu sais, ça se peut, ça aussi. Puis là, on se fait manger la laine sur le dos, puis là, ça va pas bien parce qu'on est trop généreux, puis là, à un moment donné, ça va, on va se perdre comme personne. Fait qu'il faut s'observer un peu partout. T'sais, je suis talente avec ça, je vous dis toujours ça, mais c'est ça pareil. Il faut s'observer dans nos gestes. Fait que ça peut être bien correct que tu dises, mais non, ça, je vais arrêter là, j'ai des enfants à maison, puis ça, je vais pas aller faire le cabanon de mon voisin samedi toute la journée.
C'est ça, exact. Ben, c'est un bon exemple. T'sais, alors qu'il y a bien du monde, ben oui, mais vas-y, faire le cabanon. Non, je suis pas comme ça.
Non, mais il faut apprendre à fixer des limites, apprendre à dire non, puis ça veut pas dire que tu deviens une mauvaise personne.
Oui, mais vraiment ça, c'est tellement facile à dire. Puis ma question, elle va un peu là, Caro,
comment tu apprends à dire non?
Non, mais oui, mais au-delà de comment tu apprends à dire non, c'est comment tu apprends à mettre une certaine limite à cette sympathie ou cette empathie-là, parce que tu te poses pas la question, j'ai le sentiment, c'est juste un naturel.
Des fois, il faut faire une pause dans la relation. Je dis pas une longue pause, mais juste prendre quelques minutes. Tu sais, quelqu'un t'écrit, mettons, t'as un texto, tu viendrais-tu m'aider ce soir, là, après la radio, garde.
Je réponds spontanément.
Ça se peut que moi, je suis un peu fatiguée aujourd'hui, là. Fait que je vais prendre comme du temps. Avant, j'aurais fait oui, c'est sûr. Yeah! Yes, man! Là, à un moment donné, j'aimerais ça y aller, je te reviens dans une heure. Juste mettre une petite mini-pause, ça va peut-être aider. Si ça me tente, dans une heure, je vais y aller. Mais si je vois que la fatigue est là puis qu'il faut que je m'occupe de moi à place...
Le problème souvent des gens qui ont cette empathie-là, c'est que même s'ils ont une certaine fatigue, j'ai le sentiment qu'ils se sentent mal. Ça prend le déçu. Ça prend le déçu sur tout sentiment. Là,
mais c'est notre personnage principal qui est comme ça dans la série. Il n'ose jamais mettre de limites parce qu'il se dit qu'il faut l'aider la personne. Mm. Puis il est à son détriment, on le voit souvent, là, qu'il a sa santé, lui, à lui, elle va plus bien du tout.
Oui, puis ça devient... Ben, en tout cas, moi, c'est mon avis, puis il y en a plusieurs qui réagissent à cette série-là comme ça en disant, ben là, c'est une relation toxique, puis les deux se méritent rendus là, là.
Oui, une relation toxique.
Je comprends qu'il y a du bagage, puis ainsi de suite, mais à un moment donné, tu regardes, puis j'imagine que dans n'importe quelle relation qui est pas saine, puis c'en est-tu une relation, je veux dire, t'es un stalker c'en et t'as quelqu'un qui l'entretient.
C'est ça, c'est dans les deux directions, c'est pas à sens unique.
C'est ça, si toi, mettons, un animateur, quelqu'un parle à l'animateur par Facebook, puis il t'écrit à tous les jours, puis c'est du harcèlement, qu'est-ce que tu vas faire, Denis?
Je vais le bloquer. Sur les réseaux sociaux, j'ai le blocage assez rapide, oui.
Puis là, on parle de quelqu'un qui n'est pas adéquat avec toi. Là. Mm-hmm. Pas quelqu'un qui est gentil puis qui veut des nouvelles parce qu'il aime t'écouter.
Non,
qui serait harcelant. Bon.
Ouais.
En faisant ton blocage, tu coupes la relation toxique.
Oui.
OK? C'est une relation toxique, ça se joue à deux. C'est deux personnes. C'est l'ensemble de deux. C'est pas... Il y a une harcelante dans le duo, mais il y a aussi quelqu'un qui accueille ça puis qui ne met pas de limite.
Il nourrit à la limite.
C'est ça. Ça se peut qu'une autre personne, ça n'aurait pas marché son harcèlement. Là. Mais lui, il y avait quelque chose qui fait que ça. Il y a eu comme les deux à la fois. Deux éléments.
Dans la série, sans vendre de punch, à un moment donné, tu arrives à la conclusion, si j'ouvrais la porte à quelqu'un de toxique dans ma vie, c'est parce que je ne m'aimais pas, j'avais des affaires de pas régler, puis je me suis sauvé de ces affaires-là.
Oui.
Bon, ça peut pas tout être ça, là, les gens qui sont dans des relations toxiques, puis ça m'apparaît un peu facile de dire que c'est toutes des gens qui ont des traumas pas réglés.
Mais chaque relation est différente, c'est sûr. Mais il y a des gens qui sont toxiques seulement dans un certain duo. Ils sont pas toxiques avec tous leurs amis ou leurs conjoints-conjointes.
C'est comme si tu fais une recette, là, il y a des ingrédients qui fonctionnent ensemble, qui ont une réaction.
C'est pas du vinaigre avec de la petite vache, ça fait bon.
Bon, on va dire que c'est plein de petits volcans, là.
C'est des petits volcans ensemble, puis là, après, c'est drôle, ils sont avec tes voix, 2-3 ans après, tout va bien avec leur nouveau chum, leur nouvelle
blonde. C'est parce que le vinaigre a trouvé des frites.
C'est ça.
Là, ça marche
bon
ensemble.
Match. Oui. Bonne combinaison. Donc, il y a une combinaison de facteurs. Mais oui, il y a des traumas, Denis, pas mal chez tout le monde qu'on rencontre finalement. C'est juste qu'il y a des niveaux.
Ouais.
Tu sais, il y a des niveaux élevés. Il y en a qui on l'a bien géré enfant. Il y en a que non. Puis ça ressort dans une relation intime.
Donc, quelqu'un qui écoute la série, OK?
Ouais.
Baby Reindeer ou n'importe quoi d'autre, dans le fond, puis qui se dit, hein, je pense que je suis un peu de même.
Ouais.
Je me reconnais un peu dans le personnage principal.
Ouais. Ah, je ferais ça aussi, moi.
Ouais, mettons. Moi, j'ai cette tendance-là, puis je pense que j'aurais laissé.
Je vais arrêter de te harceler, je vais arrêter de t'aider. J'ai compris le message.
Moi aussi, j'enverrais 41 000 courriels.
Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Parce que ces gens-là, clairement, c'est pas la police, la première personne avec qui ils vont avoir le goût de parler, ou peut-être même un proche. Parce que les proches, ça fait combien de temps que tu entretiens cette relation-là? Ouais. Ah, ça fait 6 mois. 6 mois! T'as pas appelé la police, t'as pas rien fait.
C'est facile de juger. Capoté, ouais.
C'est ça, oui. C'est facile de juger. Hein? C'est comme une copine qui dirait « je suis violentée par mon conjoint », ben voyons, on sort de là.
Va-t'en.
C'est pas si simple que ça.
Mm-hmm.
Tu sais, la relation est pas si simple, donc c'est là que c'est intriqué plein d'éléments entre les deux personnes qui fait que c'est toxique. Là. Puis c'est pas moi l'ami qui va dire « laisse ton chum » que ça va marcher. T'sais.
Est-ce que c'est bien et sain une série comme celle-là qui expose de façon très nette et crue le noir, le blanc et le gris entre les deux de c'est quoi être une personne harcelée, c'est quoi une personne qui harcèle, puis pourquoi une personne harcelée en vient à vivre dans cette roue-là, puis peut-être à se complaire un peu dans son malheur?
Mon opinion personnelle, vraiment,
ouais.
Oui, c'est bien.
Okay.
Parce que ça ouvre d'autres portes. Les réseaux sociaux, c'est notre vie maintenant.
Mm-hmm.
Tu sais, quand je dis bloque-les, tu sais, comme c'est aussi simple que ça, ben si quelqu'un écoute la série puis il fait « Hey, il faut bloquer ce monde-là », puis ça lui arrive dans 6 mois, que la collègue de travail lui écrit à chaque soir, là, à ce moment-là, c'est bon. Tu comprends? Mm-hmm. Il y a de l'enseignement là-dedans. Puis c'est la vérité, c'est une vraie histoire, puis c'est le vrai gars qui a vécu ça en plus.
Oui, bien, ça ajoute une touche. Ça touche. Oui, oui, c'est...
Ça ajoute une affaire, hein? C'est comme social.
C'est se mettre à nu, littéralement. Ouais, si on accepte, évidemment, toute sa version des faits de A jusqu'à Z. Là.
Je pense que c'est un processus de guérison à un certain
point. De l'écrire et de le jouer, oui. Pour quelqu'un, je pense, pour un être humain qui a vécu ça, je pense qu'il y avait besoin... cet homme-là.
Fallait que ça sorte.
Cet homme-là a besoin de reprendre son estime de lui et s'affirmer dans sa vie. En produisant sa série, il est en train de vaincre sur le harcèlement qu'il a vécu. Comprenez-vous? C'est guéri. C'est vraiment... oui, ça guérit.
Il a fait une entrevue dans les dernières heures parce que tout le monde lui demandait c'est qui les personnes. Puis il dit « Hey, si j'avais voulu dropper des noms, j'aurais fait un documentaire.
Mm-hmm. » Ouais.
C'était pas l'objectif en faisant cette série-là. Puis on le voit plus tard que du moment où il a commencé à l'extérioriser, c'est là où il a recommencé à prendre le dessus sur sa propre vie. C'est cœur, hein, comme série.
Il y a une belle leçon de vie là-dedans, je trouve. Là, parce que peu importe, je sais que... Puis Denis, probablement qu'on le voit vraiment